Bon, combien ça coûte pour encourager? Et donc, nous allons voir aussi les conséquences de l'encouragement. Donc, je vais vous proposer quatre textes bibliques que nous allons lire ensemble. Et vous allez voir les différentes formes d'encouragement inventées par Dieu lui-même. Le premier texte se trouve dans Genèse, chapitre 2, et nous allons prier avant de lire ces textes. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, parole puissante, majestueuse qui a créé l'univers, cette parole créatrice qui fait jaillir la lumière dans les ténèbres, mais aussi cette lumière qui brille et qui veut briller dans nos cœurs ce matin, pour nous éclairer, sans nous éblouir, pour nous réchauffer, sans nous brûler. Veuille permettre que ta parole puisse nourrir notre esprit, renouveler nos pensées, assouplir notre volonté, éclairer nos chemins. Donne-nous, Seigneur, donne-moi de recevoir ta parole avec humilité, avec sobriété, avec foi. Et tout cela, nous demandons dans le nom de Jésus. Amen. Le premier texte, nous lisons dans le livre de la Genèse, et chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Verset 22. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Dieu, une fois qu'il a terminé sa création, il va la couronner avec la création de la femme. La femme, c'est un, on peut le dire comme ça, c'est un encouragement mobile en chair et en os, on peut le dire comme ça. Elle se déplace, et en anglais c'est traduit, Dieu il a créé la femme pour être un appui, pour être un encouragement pour l'homme. Et je vais demander à toutes les femmes de se lever ce matin, vous voyez, regardez bien, levez-vous, vous pouvez vous lever. Hein. C'est Dieu qui a inventé ça, hein. C'est pas formidable, hein? Vous pouvez vous asseoir. Hein? Et nous le savons que c'est vraiment un don de Dieu. Hein? Peut-être que vous n'êtes pas marié, mais vous pouvez remercier Dieu pour votre mère. C'est Dieu qui a inventé, donc, qui a créé la femme pour être à côté de l'homme, pour l'encourager. Et vous savez que souvent, moi, je suis en déplacement. Pendant 35 ans, je fais des séminaires sur la prière. Et c'est Françoise, chaque fois, qui prépare mes valises. Hein? Elle a toujours peur que j'oublie des choses importantes. Et ce qui se passe souvent, quand j'arrive sur place, j'ouvre la valise et je trouve un petit mot. N'oublie pas de suspendre ta veste dès que tu arrives. Je t'aime, j'ai prié pour toi. Quel encouragement, hein? Et nous pouvons être reconnaissants aussi pour tous les encouragements que nous avons reçus de notre mère aussi, et aussi de notre femme. Et c'est Dieu donc qui a inventé, qui a créé, qui a couronné sa création avec la création de la femme. Nous allons lire un deuxième texte, c'est dans Ésaïe chapitre 40, une autre source d'encouragement inventée par Dieu lui-même. Ce sont des prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? C'est une personne qui a la bonne parole pour la bonne personne au bon moment. Et cette parole va changer leur vie. Et dans Ésaïe chapitre 40, nous lisons verset 1, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, écris-lui que sa servitude est finie et que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Consolez, consolez mon peuple. » Et nous allons voir dans un deuxième temps les différentes dimensions de ce mot « encouragement » dans la Bible. On va le définir, mais ce mot important, « consoler », c'est le fait de diminuer l'affliction. Hein. C'est une forme d'encouragement. Et c'est aussi les prophètes qui avaient ce don de prononcer des paroles. Des paroles qui vont pénétrer le cœur et qui vont aussi porter une guérison intérieure. Une parole parfois difficile, mais combien une parole nécessaire. Et nous allons voir que Dieu, à travers l'histoire de l'Ancien Testament, il va susciter des prophètes pour prononcer des paroles. Et puis dans le Nouveau Testament, bien sûr, Jésus, c'était déjà dit, mais j'aimerais le redire, Jésus est venu sur la terre et son ministère, on peut le résumer avec un mot, c'était pour encourager. C'est dans Luc chapitre 8, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Quelle bonne nouvelle pour nous! Dieu qui vient sur la terre pour nous encourager. Quel encouragement! Chacun d'entre nous, nous avons besoin d'être encouragés. C'est vrai? Surtout au début de cette année. Et il y a quelques semaines, lorsque j'étais à Paris, il pleuvait très fort. J'ai traversé un marché et dans ce marché, il y avait un monsieur qui était en train d'aiguiser ses couteaux. Il chantait en même temps, il pleuvait très fort. Et moi, il y avait beaucoup de monde. Et une petite dame à côté de moi que je ne connaissais pas, elle me dit, regardez le monsieur, le boucher qui est en train de chanter. C'est encourageant. Et puis, quelques minutes plus tard, j'ai pris le métro, on était serrés comme les sardines, et dans le métro, il y a un monsieur qui prononçait des paroles à une jeune fille, sa fiancée, elle pleurait amèrement. Il prononçait des paroles, j'avais envie de lui dire, mais arrêtez ça, Sophie. Je ne le connaissais pas, donc je n'ai rien dit. Elle pleurait amèrement. Vous avez compris ces deux visages, ces deux tableaux, un homme qui encourage et un autre qui décourage. Et je pourrais conclure, est-ce que vous êtes en train d'encourager ou est-ce que vous êtes en train de décourager les autres? Ce thème de l'encouragement est important à toutes les étapes de notre vie. Nous avons besoin d'être encouragés. Un bébé a besoin de la présence de sa mère, constamment. La présence affectueuse, la nourriture maternelle, en a besoin constamment. L'enfant qui grandit a besoin d'affection, d'être encouragé dans ses activités. Déjà pour se lever pour aller à l'école, on appelle ça l'encouragement. Il a besoin aussi d'être encouragé de faire ses devoirs, de ranger sa chambre, de manger de manière équilibrée. L'adolescent a besoin aussi d'être mis en valeur pour ses dons, ses capacités, ses études, ses sports, dans la musique, être encadré par ses parents. Et il est important pour les parents de veiller sur les enfants, de les encourager constamment. Mais l'adulte, il a aussi besoin d'être encouragé dans son travail, pour ses dons. Et même les personnes âgées, hein, moi j'ai 71 ans, hein, on a besoin d'être encouragé. Et à faire la mesure qu'on avance dans la vie, c'est souvent les enfants, les petits-enfants qui nous encouragent. Ce sont les rôles qui sont inversés, c'est très intéressant. Hein. Et les personnes âgées, ils apprécient des visites, un coup de fil, des petites attentions. J'aimerais vous faire remarquer, et c'est important, que Dieu il va susciter les différentes formes d'encouragement. J'aimerais vous faire remarquer la progression vers l'intimité concernant ces moyens que Dieu il a suscités. Il a suscité une femme, un encouragement chair en os. Après, il a créé des prophètes. C'est un encouragement qui vient de l'extérieur par la parole. Et puis, Jésus lui-même qui vient sur la terre. Et puis, dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, il est dit dans le chapitre 16, et c'est Jésus qui le dit, verset 20, « Quand il sera venu le Consolateur que vous enverra de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il sera avec vous, il sera en vous. » Non seulement Dieu il va donner des encouragements de l'extérieur, mais il va placer un encouragement à l'intérieur de manière permanente. Lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on accepte Jésus dans notre cœur, l'Esprit de Dieu, il est là de manière permanente à l'intérieur de nous. Et ça, c'est aussi donc un encouragement. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'être encouragés? Vous savez que le découragement a des causes diverses, la pression de la vie, le travail, le stress, des relations brisées, des conflits, les désirs non comblés, le rejet, l'échec, une mauvaise image de soi, la fatigue, l'épuisement, le burn-out. Et il est encourageant de savoir que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, nous trouvons de nombreux personnages qui sont passés par le découragement. Même le peuple d'Israël, lorsqu'il devait reconstruire les murailles dans le chapitre 4 de Néhémie, il dit « Nous ne pouvons pas construire, la tâche elle est trop grande, les forces nous manquent, nous ne pourrons pas bâtir. » Ils étaient découragés, ils ont tout plaqué, ils ont arrêté. Pendant 100 ans, ils ont arrêté les travaux et puis ça a repris et ils ont pu terminer en 52 jours. Mais à certains moments, ils sont passés par le découragement. Et même dans les psaumes, pourquoi le découragement? À cause du mal, les injustices, le bonheur des méchants, la souffrance des innocents, l'accroissement des richesses des méchants. Le péché aussi peut nous encourager, c'est le psaume 32, verset 3 et 4, le péché nous rend malade. Les projets non réalisés. Et les nombreux hommes et femmes de Dieu étaient découragés dans l'Ancien Testament. Moïse, qui dit à Dieu, je ne peux plus supporter ce peuple. Élie, qui est un homme de prière remarquable, il dit, c'est trop pour moi maintenant, reprends ma vie. Job, qui dit dans le chapitre 10, verset 1, mon âme est dégoûtée de la vie. Et l'apôtre Paul aussi, qui a connu des moments de découragement. Tous m'ont abandonné. Jésus, est-ce qu'il a été découragé? Jésus, il a aussi connu le découragement. Il était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Jésus était envahi par la crainte, par l'angoisse qui le saisit dans le jardin avec ses disciples. « Je suis accablé de tristesse. » À mourir, dit Jésus. Le message central de la Bible, c'est, on peut le résumer avec un mot, c'est l'encouragement. Et c'est Jésus qui dit, je dis ces choses afin que vous ayez en vue la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est pas merveilleux ça? Et tout à travers la Bible, c'est Dieu et Jésus qui dit, ne crains pas, je suis ton bouclier, je suis avec toi. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas les gens de ce pays. Ne crains pas ce qui tue le corps. Ne crains pas, petit troupeau. 150 fois, nous avons ce refrain qui revient. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Quel encouragement pour nous. Les soucis au fond du cœur vous dépriment, mais une parole d'encouragement vous rend la joie. C'est le Proverbe 12, verset 25. C'est un philosophe allemand, Nietzsche, fils de pasteur, qui a dit ceci. « Je croirai en Dieu lorsque les chrétiens auront des têtes de ressuscités. » Oh, comment est votre tête ce matin? Quelqu'un d'autre dit « On n'est pas responsable pour la tête que l'on a, mais on est responsable pour la tête que l'on fait. » Et nous avons de quoi être encouragés. Et j'aimerais préciser maintenant le but de l'encouragement. C'est Christ que nous annonçons. C'est pour cela que nous vous avertissons, encourageant chaque homme sans distinction, que nous enseignons à chacun la sagesse parfaite. Notre but est de placer tout homme en présence de Dieu et de l'amener, les chrétiens, à leur maturité spirituelle par une communion vivante avec le Christ. Le but de l'encouragement, c'est la maturité spirituelle, pour que nous puissions aussi encourager les autres. Et j'aimerais donc vous donner maintenant la définition de ce mot encouragement. C'est la mienne, donc elle est bonne. Je ne dis pas c'est le meilleur, mais L'encouragement, c'est une puissance qui vient de l'intérieur ou de l'extérieur, qui va influencer la volonté, l'intellect et les sentiments et améliorer le comportement d'une personne. C'est une puissance qui soulage. J'avais posé la question à un groupe d'enfants, est-ce que tu peux me donner la définition de ce mot encouragement? Puis le garçon dit, monsieur, je sais. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il dit, mon papa, il vient d'acheter un nouveau lave-vaisselle. Je dis, mais je n'ai pas compris, tu n'as pas compris ma question. Qu'est-ce qu'est l'encouragement? Il dit, si monsieur, j'ai compris, on est tous soulagés. Il a tout compris. Hein? Et l'encouragement, c'est une puissance qui nous soulage. J'aimerais maintenant aborder les trois dimensions de ce mot dans la Bible. Il y a trois dimensions, au moins trois. Il y a d'abord donc l'exhortation, c'est tout simplement l'encouragement. Et donc Colossiens 3, verset 16, il dit « Encouragez-vous les uns les autres ». C'est un commandement. Et je vais vous demander aujourd'hui, cette semaine, de prendre la décision d'encourager quelqu'un. Soit par un téléphone, soit par une visite, soit par un petit cadeau, acheter des fleurs, de dire à quelqu'un « Je vous apprécie, je suis content de vous voir », de décider quelque chose ce matin. Et ça va changer votre journée, et ça va changer aussi la journée des autres. De prononcer des paroles aimables, justes, des paroles aimables, justes, dites au bon moment, et comme un rayon de miel, douce pour l'âme et bienfaisante pour le corps. C'est le Proverbe 16, verset 24. Ce ministère de l'encouragement, ce n'est pas réservé aux pasteurs. Chacun d'entre nous, nous avons la responsabilité d'encourager les autres. Première dimension, exhorter. Dites une parole qui va changer et encourager l'autre. Deuxième dimension de ce mot, c'est la consolation. Diminuer l'affliction. Chacun d'entre nous, nous souffrons. On ne le dit pas. Nous avons des blessures, nous avons des tristesses intérieures. Et la parole de consolation va diminuer l'affliction. Et ce qui est très intéressant dans le Nouveau Testament, Jésus, avant de parler, qu'est-ce qu'il va faire? Avant de parler Jésus, il fait un geste. C'est beau ça. Et vous savez, même avec un petit geste, on peut encourager donc nos frères et sœurs. Donc la consolation. Je vais vous encourager de prononcer une parole de consolation aujourd'hui. Et puis il y a une troisième dimension de ce mot, c'est le fait d'avertir, corriger quelqu'un. Pour améliorer le comportement, remettre sur les bonnes voies. Et souvent dans mon ministère, des personnes qui avaient plus de maturité que moi, ils avaient des paroles d'encouragement pour moi, pour me reprendre. Et j'avais besoin d'entendre ça. Et encore aujourd'hui, j'ai besoin d'entendre des paroles d'encouragement pour me remettre sur les rails. C'est dans 2 Timothée 3, 16, il dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, exhorte, censure avec douceur. » L'encouragement, c'est quelque chose qui est nécessaire. Lorsque nous étions à Pierre-Latte, il y a quelques années de cela, Françoise, elle avait dans notre appartement 22 plantes. Et lorsqu'elle allait à la Favède, donc dans les Cévennes, avec les enfants, moi je devais rester le week-end à l'église, parfois je reste une semaine, et elle écrive un petit mot, des instructions pour m'occuper des plantes. Et combien je devais arroser chaque plante, vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après, ou même le lendemain, elle m'appelle, dit « Est-ce que tu as pensé à mes plantes ?» Non, j'ai complètement oublié. Et qu'est-ce que je fais? J'arrose les plantes trop, hein? J'arrose même l'appartement, j'avais de l'eau partout. Hein? Et puis elle m'appelle... Le lendemain, je dis, comment ça va mes plantes? Je dis, ça ne va plus. Et vous savez ce que je fais? Avant qu'elle revienne très vite, j'essaie de réparer, de faire repousser les plantes. Il n'y avait rien à faire. Hein? Mais quand elle est revenue, à chaque plante, elle a placé une tige à côté de chaque plante. Elle a attaché délicatement avec une ficelle. Elle a dosé comme il faut. Et vous savez quoi? les plantes ont commencé à repousser, porter des fleurs, elles étaient soulagées, et moi aussi. C'était merveilleux. Qu'est-ce que l'encouragement? C'est avoir la capacité de se mettre à côté de quelqu'un d'autre sans me blesser et de les aider à s'épanouir et aussi de grandir. On appelle ça un tuteur. Et l'encouragement, nous avons besoin d'être un tuteur. Et heureusement, j'ai pu avoir des personnes qui, pendant tout mon ministère, ont été à côté de moi et qui m'ont encouragé, qui m'ont consolé et parfois qui m'ont repris. Maintenant, les sources de l'encouragement. La première source que j'aimerais proposer, c'est Dieu lui-même. Dans 1 Samuel 30, verset 6, il y a David, il a vécu une défaite terrible. Sa ville était prise, les familles et les femmes étaient prises, et même ses deux femmes étaient prises, et il était découragé. Il est dit dans les textes, verset 6, que David, il n'avait plus de force pour pleurer, tellement il était triste. Il était vraiment au fond du trou. Et il est dit dans le verset 6, « Mais David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. » C'est beau ça. Attention de ne pas trop s'appuyer sur les autres, hein, parce qu'ils peuvent craquer les autres. Hein. Il est important pour chacun d'entre nous de nous appuyer sur Dieu, sur la personne de Dieu. Et ça m'a fait plaisir que David, il a mentionné certains attributs de Dieu. Je fais une liste des attributs de Dieu. Je n'ai trouvé 144. Si vous trouvez plus de 144, je vous donnerai un livre gratuit. Et je les ai classés par l'ordre alphabétique. Dieu, il est, Dieu, il est mon abri. Dieu, il est le bon berger. Dieu, il est plein de compassion. Il est divin. Il est éternel. Il est ma force. Il est grand. Il est haut. Il est juste. Il est immuable. Il est lumière. Et tout le matin, je vais prier sur l'attribut de Dieu, sur un attribut de Dieu. Et je vais m'appuyer sur la personne de Dieu. Et c'est quelque chose qui va transformer donc votre vie de prière. Donc, c'est de s'appuyer sur Dieu lui-même. Et puis, deuxièmement, c'est de vous appuyer aussi sur la vérité, la parole de Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas ce que tu sens, mais ce que Dieu dit. Je veux vous encourager de vous appuyer sur la vérité. Le mensonge nous plonge dans le désarroi, la confusion, mais quand nous écoutons la vérité, quand nous appliquons la vérité nous affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit, affranchira. Il y a une puissance dans cette parole de Dieu lorsque nous appliquons la parole de Dieu à notre vie. Je vais vous montrer un petit schéma, vous allez voir sur l'écran. Vous avez ici à gauche, vous avez la vérité. À côté, vous avez l'expérience. Et le danger, c'est qu'à cause de l'expérience, nous allons réduire la vérité au niveau de l'expérience. À cause de l'incrédulité, on met en doute la parole de Dieu. On dit, je ne me sens pas bien, on va s'appuyer sur nos émotions au lieu de nous appuyer sur la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut élever l'expérience au niveau de la vérité. Au lieu d'abaisser la vérité au niveau de l'expérience, il nous faut élever l'expérience au niveau de la vérité. Et ça va changer votre journée et même changer votre vie. Cette vérité, elle est la source de la joie, et David en a parlé au début, c'est la source de la joie. Cette vérité va purifier notre cœur, elle va nous guider, elle va nous protéger. C'est, David en a parlé aussi, c'est la source de notre espérance. C'est elle qui nous instruit dans ce qui est juste et bon et saint. Sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas. Ne te promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens à ma droite triomphante. Voici, j'ai gravé ton nom sur ma main. Ce n'est pas merveilleux tout ça? Je veux vous encourager de recevoir ces paroles dans votre cœur. Et puis, bien sûr, Jésus lui-même, c'est une source d'encouragement pour nous. Jésus qui est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. On peut avancer un peu? Voilà. Le prochain. Voilà, celui-là. Voilà. Non, avant. Voilà. On va s'arrêter sur ce texte. Pendant 35 ans, j'ai parlé et j'enseigne sur la prière. Et parfois, je n'ai pas envie de prier. Parfois, c'est à cause des circonstances. La maladie, le deuil. Je suis passé par le deuil aussi parce que j'ai perdu ma sœur quand elle avait 32 ans. Et c'est encore, quand j'y pense, c'est encore difficile pour moi. Et il y a des moments qu'on n'arrive plus à prier. Hein. On passe par le désert spirituel, le découragement, le burn-out. Et j'aimerais vous encourager. Car dans ces moments-là, il ne faut pas se culpabiliser. Et nous pouvons donc nous accrocher à cette vérité fondamentale, immuable. Lorsque nous traversons des moments difficiles, Jésus, il intercède pour nous. Il est vivant, il est à droite de Dieu, il intercède pour nous. Jésus, il a compati avec nous dans toutes nos faiblesses, dans nos épreuves. Il est passé par là, il comprend et il nous encourage, il nous console. Et puis, il y a aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il sera avec vous, il sera en vous. Il est... Donc, c'est après. Le Saint-Esprit, il demeure avec vous. Il sera en vous, à l'intérieur de vous. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui va nous éclairer, nous fortifier dans des moments de faiblesse. Il nous donne une conviction de péché, l'assurance de salut, que nous sommes des enfants de Dieu. Il prie pour nous. Il nous éclaire. Il nous aide à comprendre la parole de Dieu. Il nous donne l'audace et aussi la puissance pour témoigner. Et puis aussi l'église locale. Dieu nous a placés dans une famille spirituelle. Et nous avons aussi la responsabilité d'encourager les uns les autres. Encouragez-vous mutuellement. Encouragez-vous mutuellement. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il va écrire aux églises, parfois en prison, et même s'il est en prison, il va écrire pour encourager les autres. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'encouragement, c'est contagieux. Hein? Lorsque quelqu'un nous encourage, nous, on a envie d'encourager quelqu'un d'autre. L'apôtre Paul le dit, ce n'est pas seulement la vue de Tite qui nous a réconfortés, mais aussi le réconfort qu'il a reçu de vous. Et l'apôtre Paul, il dit ceci, et tout cela a augmenté ma joie. On peut dire donc que l'encouragement, c'est contagieux. Et puis, un autre point, c'est d'être un encouragement pour les autres. C'est encourageant d'encourager. C'est difficile pour les étrangers de dire ça. C'est encourageant d'encourager. Une fois, j'étais à Paris. J'avais un peu de temps, j'avais une journée de libre. Je dis, je vais visiter une famille qui est pauvre, que je connais autrefois. Ils avaient 5 enfants, ils avaient très peu de moyens. Et avant d'aller les visiter, je suis allé dans un supermarché. J'ai fait le menu dans ma tête, j'ai acheté tout ce que j'aime. Ma femme n'était pas avec moi, hein, donc j'ai acheté tout ce que j'aime. Et je dis, je vais aller dans cette famille. Et je leur téléphone et dis, écoute, je viens manger chez vous, mais j'apporte tout. Et vous savez quoi? On a bien mangé, hein? C'était formidable, hein? Et après le repas, on a commencé à chanter. On a commencé à partager des expériences profondes, nos souffrances. On a pleuré ensemble. C'était merveilleux. Et je suis reparti encouragé. C'est encourageant d'encourager. Alors, combien ça coûte? Je vais terminer par là. Premièrement, ça demande donc l'honnêteté et la transparence. D'être honnête. Vous savez, parfois, on n'ose pas dire aux autres, je suis découragé. Mais ça fait du bien de pouvoir le dire, je suis découragé. Priez pour moi. Et dans les églises, on ne fait pas assez de manière spontanée. Priez pour moi parce que j'ai besoin de l'encouragement. Je suis découragé. Et c'est pourquoi Dieu nous a placés dans une famille. Vous savez que les chrétiens sont comme des arbres. Vous savez ça, ils sont comme des arbres. Il y a certains arbres qui sont tout seuls dans un champ. Vous avez remarqué, ces arbres-là sont souvent tordus, hein? Mais les arbres qui sont dans une forêt, les uns à côté des autres, on peut faire des belles planches et des beaux meubles avec ce bois-là. Et je suis charpentier, j'étais charpentier menuisier, et ça je le sais. Hein. Et d'où l'importance pour nous de rester ensemble. Et pourquoi est-ce que ces arbres, ils poussent droit? À cause de la présence des autres. D'où l'importance aussi pour nous de rester dans l'Église et de s'encourager les uns les autres. Et ça demande donc la transparence, l'honnêteté, de dire aux autres, parfois, je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Parfois, on veut faire croire aux gens qu'on ne fait jamais des erreurs. Mon beau-frère, lorsqu'il faisait des études de médecine, il m'embêtait chaque fois que je le voyais. Il dit, Yann, je vais t'expliquer comment il marche ton cerveau. Alors, il prenait une feuille de papier, il dit, tu écoutes bien. Il utilisait le mot très compliqué. Je ne sais pas s'il comprenait lui-même. Il faisait des dessins. Il me dit, est-ce que tu as compris? Je dis, non, je n'ai rien compris. Il dit, je vais recommencer, il prend une autre feuille. Et moi, j'étais là, un pauvre charpentier menuisier, il m'expliquait. Ça a duré parfois 20 minutes, ça m'embêtait. Hein. Et vous savez, pour finir, un jour, il me téléphone, il dit, Yann, tu viendras chez moi pour remplacer une vitre. J'ai cassé une grande vitre dans ma maison. Alors, je vais chez lui, et je dis, tu ne touches rien, je vais t'expliquer comment il faut faire. Donne-moi une feuille blanche. Qu'est-ce que je suis content? Je vais t'expliquer comment il faut faire. Et j'expliquais pendant 10 minutes comment il faut faire, enfin n'importe qui peut le faire. Et il dit, il faut faire très attention comme tu prends des mesures, etc. Et il dit, mais je viens avec toi, c'est moi qui vais le porter. Il dit, tu ne touches rien. Toi, tu es médecin, je suis charpentier, je suis le professionnel, tu ne touches rien. Et on était ensemble, il me suivait, c'était à Glasgow. Et j'ai acheté la grande vitre, il me suivait, mon beau-frère, comme un petit chien, qu'est-ce que j'étais content. Hein. Et arrivé à la maison, vous savez ce qui s'est passé? Quand j'ai placé le vitre est passé de l'autre côté. C'était trop petit. Mais ce n'est pas drôle. Hein. Et cette histoire, j'ai raconté à quelqu'un qui était découragé. C'est les anciens de mon église qui me disent, va voir cette personne, il a perdu son travail. Il a beaucoup de problèmes. Il faut lui dire quelque chose qui va l'encourager. Et j'ai raconté cette histoire. Et ce gars, il s'appelle Georges, il me dit, Yann, qu'est-ce que tu m'as encouragé à cause de cette histoire? Alors parfois, il faut avoir l'honnêteté de dire aux autres, eh bien, moi aussi, je fais ça, je me suis trompé. Et ça peut être une source d'encouragement. Le deuxième prix, c'est le temps. Ça demande du temps. Je veux vous encourager donc à investir un temps de qualité avec vos enfants et vos petits-enfants. Et Dieu, il a créé la famille avant de créer l'église. Ça, c'est important. Hein? On peut dire que la famille, c'est une petite église quelque part. Hein? Et je veux vous encourager donc à investir un temps de qualité avec chaque enfant. C'est un don de Dieu. Troisièmement, combien ça coûte? Les larmes. C'est l'apôtre Paul qui dit dans Actes 20, « Durant 3 ans, je n'ai cessé jour et nuit de vous encourager avec des larmes. » Il dit ceci à l'église d'Éphèse. « Encourager, ça coûte. » Alors, quelles sont les conséquences de l'encouragement? Il y a une femme dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, chapitre 16, elle va recevoir dans sa maison l'apôtre Paul. Il est dit dans le texte qu'elle va ouvrir son cœur, elle va ouvrir son foyer, et j'ajoute, elle va ouvrir l'autoroute de l'encouragement qui vient depuis Philippe parce qu'elle a démarré une église dans sa maison parce qu'elle a su encourager. Premièrement, il est dit dans le texte, elle a ouvert son cœur, elle a ouvert son foyer, et puis elle a donné l'hospitalité à l'apôtre Paul qui a démarré dans sa maison l'église de Philippe. Alors, j'aimerais conclure. Est-ce que nous voulons ouvrir notre cœur pour encourager? Est-ce que nous voulons nous puiser dans les sources de l'encouragement donné par Dieu? Voulons-nous prendre la décision d'encourager dans la famille, dans l'Église, d'être un criant dans la main de Dieu pour écrire une belle page dans l'histoire de l'Église? Je termine avec une anecdote. Ça se passe en Angleterre. À Euston Station, c'est une gare qui se trouve au nord de Londres. Souvent, je prenais le train dans cette gare pour aller jusqu'à Glasgow. Et dans cette gare, il y a un petit garçon qui pleure. On peut avancer là maintenant? Voilà. Il y a un petit garçon qui pleure parce qu'il a perdu son billet de train. Et il y a un gentleman, qui veut dire un homme gentil, ça, vous le savez, paraît-il, ça existe en Angleterre. Et un gentleman qui voit le petit garçon qui pleure, il va s'intéresser à lui, il va aller vers lui et il va lui dire, qu'est-ce qu'il y a mon petit?
comme Jésus, il va quitter le ciel, il va descendre, il va venir vers nous, pas seulement pour nous parler, mais aussi pour nous sauver. Il dit au petit garçon, qu'est-ce qu'il y a? Le petit garçon dit, j'ai perdu mon billet de train. Et le monsieur dit, écoute, je vais faire quelque chose pour toi. Je vais acheter un billet pour toi à une seule condition. Si jamais toi, tu vas dans une gare et tu vois un petit garçon qui pleure, ou une fille, tu vas aller vers lui, tu vas faire exactement ce que je fais pour toi. Est-ce que tu es d'accord? Oui, monsieur. Et le monsieur, il va aller donc au guichet, il va mettre sa main dans sa poche, il va payer de sa personne pour que le petit garçon puisse reprendre son voyage. Comme le Christ, il a fait pour nous. Il est allé jusqu'à la croix, il a payé de sa personne, il est mort sur la croix pour toi. C'est la bonne nouvelle par excellence. Pour que toi, tu peux jusqu'à l'éternité, avoir cette vie éternelle. Il va payer de sa personne. Il vient vers le petit garçon, il donne le billet au petit garçon. Et le petit garçon, il est transformé. Il dit, merci, monsieur. Et nous aussi, nous pouvons dire à Jésus, eh bien, merci d'être descendu. Merci d'être allé sur la croix. Et le petit garçon, il va monter dans le train. Et le gentleman, il est là. Et lorsque le train se retire de la gare, le petit garçon, il cherche les yeux du monsieur. Et le monsieur, il est là, il cherche le petit garçon, et les yeux se croisent. Et dans ce vieux train, il avait la possibilité de descendre la fenêtre. Il se penche par la fenêtre, le petit garçon, il pousse un cri. Il dit ceci, « Monsieur, je ferai pour les autres ce que vous avez fait pour moi. » Et Jésus, il dit à chacun d'entre nous ce matin, je donnais ma vie pour toi, à toi maintenant d'encourager les autres. On va avoir un moment de silence. On va se placer devant Dieu. On va le remercier parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous a encouragés. On va se poser trois questions. Qui est-ce que je vais encourager cette semaine? Comment est-ce que je vais l'encourager? Et quand est-ce que je vais l'encourager? Nous allons passer à la prière d'intercession. Seigneur, nous te louons.